French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Ma mère me dit « Je vais prendre un petit café. » Je lui dis « Oui, oui, vas-y. » Donc évidemment, elle fond en larmes de l'autre côté de la porte. Moi, je fonds en larmes sous mes draps.
Ah, l'horreur.
Et le premier truc que je me dis à ce moment-là, là, je me dis pas, ah non, j'ai pas eu d'enfant, ou tu vois. Je me dis, j'ai pas assez voyagé. Je veux voir le monde, je peux pas. Enfin, c'était vraiment une grande souffrance de quitter ce monde en ayant vu, au final, enfin, peu de choses, tout est relatif, hein, mais moins que ce que j'aurais voulu. Et moi qui adore l'océan, le monde marin, tout ça. J'ai pleuré. Et là, je me dis, non, je ne peux pas quitter ce monde sans avoir vu Bora Bora. Et je leur dis, voilà, il faut voilà, qu'on organise une fête avec la famille, les amis, sans leur dire, pour que je puisse leur dire au revoir, mes amis, tout ça. Et après, on se casse à Bora, dans un camping, hein, ce que tu veux, je m'en fiche, mais je veux mourir face au lagon. Je veux avoir ces dernières images devant les yeux. Et un soir, il rentre donc de l'école et il me dit « Bon, ma chérie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » All right. La bonne, c'est que j'ai trouvé un stage. Et c'est pas en France. Ok. Déjà, ça commence bien. Bon, vas-y, annonce, c'est quoi la mauvaise? Et la mauvaise, c'est que c'est pas en Asie. J'ai ben merde, bon ok, bon c'est pas grave, c'est où? Bon, on avait une liste noire de destinations, clairement non, mais sinon on est toujours quand même très ouvert, pas de soucis, voilà. Et il me dit c'est en Polynésie française à Tahiti.
No way.
Ouais, là je le regarde avec les gros yeux, je lui dis mais ma valise est prête depuis 1985, y a pas de soucis.
La vie est un voyage et pas une destination, disait Ralph Waldo Emerson. Au travers de cette citation, je vous invite à plonger dans l'histoire d'Emeline, une exploratrice dans l'âme qui rêvait de parcourir le monde et qui s'est adonnée à cette passion pendant quelques années, par les vacances, puis qui un jour, alors que son pronostic vital était engagé, a réalisé que son rêve le plus profond, c'était de fermer les yeux face au lagon à Bora Bora. Un adage prémonitoire, diront certains. Cette prise de conscience pousse Emeline à vivre sa vie à 3000%. Après une expérience pas très réussie en Australie, c'est finalement vers la Thaïlande qu'elle s'envole, rejointe peu de temps plus tard par son conjoint. Une vie de rêve, la vie dont elle a rêvé. Emeline devient prof de français et tout lui va. Finalement, c'est au cours d'une reconversion de son conjoint, qui cherche un stage de fin d'études, que les jeunes tourtereaux vont s'envoler pour la Polynésie française à Tahiti. Dans cet épisode, vous allez voir qu'on va explorer le périple d'Emeline, son amour pour l'océan, ses rêves de voyage et surtout les obstacles qu'elle a surmontés pour enfin trouver sa place. Comment concilie-t-on son désir de découvrir le monde avec la réalité de la vie à l'étranger? Quels sont les enseignements qu'elle a tirés de ses expériences? Comment cette incroyable aventure a-t-elle façonné Emeline en tant qu'individu? Et qu'est-ce qui pousse certains d'entre nous à tout quitter pour se lancer dans la vie à l'étranger? Toutes ces questions, leur réponse est bien plus encore dans ce nouvel épisode de French Expat. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. C'est parti!
Hey,
Ave Maria, bienvenue.
Je m'appelle Emeline, j'ai 37 ans, je suis en couple avec mon chéri depuis le lycée, donc on a vécu pas mal de choses ensemble, dont trois expatriations. Une qui s'est pas bien passée et qui a pas duré longtemps en Australie, à Sydney. Une de 3 ans en Thaïlande. Et bah là, on entame notre 6e année en Polynésie française à Tahiti. Et on adore, tout se passe très bien et on va avoir un petit bébé pour septembre. Voilà.
Et oui, et d'ailleurs, l'épisode devrait sortir au mois de septembre. Donc je me suis dit, tiens, quand j'ai vu tout à l'heure ta story, je me suis dit, tiens, les moyens, tu vois que ça colle.
Parfait.
Alors, repartons vers le lycée. Comment est-ce que... À quoi ressemblait ta vie, en fait, quand tu étais en France? Et du coup, ça fait combien? Ça fait 9, 10 ans, du coup, que vous êtes partie, que t'es partie de France?
Oui, voilà, à peu près, ouais. Ouais, ça doit être ça, en gros. Ouais.
Alors, tu viens de quel coin en France et à quoi ressemble ta vie avant de partir, du coup?
Alors, de quel coin? De plusieurs. Donc, je suis née en Picardie, mais je ne suis pas restée très, très longtemps. Mes parents ont rapidement déménagé en région parisienne. On est retourné pour toute la période du collège en Picardie. Et au lycée, en milieu d'année, en cours d'année de seconde, on est retourné en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et c'est là où, énorme coup de chance, je suis tombée dans le lycée de mon chéri, dans sa classe de seconde, alors qu'il y en avait quand même 9 dans le lycée, et il était assis juste derrière moi, donc c'était quand même pas mal.
Est-ce que tout de suite, c'est l'amour fou? Ou est-ce que vous êtes amis initialement? Comment ça se passe?
Non, alors honnêtement, ça fait super cliché, roman à l'eau de rose, tu sais, genre le téléfilm de Noël.
C'est pas grave.
Mais ouais, non, ça a été le coup de foudre tout de suite.
C'est vrai? Et réciproque?
Ouais, ouais, carrément. Donc quand je suis arrivée, en plus j'étais hyper timide, c'était l'horreur. C'est le proviseur qui m'a présenté devant toute la classe le matin au début des cours. Donc j'étais décomposée. Donc lui, il m'a dit que voilà, tout de suite, quand il m'avait vu rentrer, coup de foudre. Je me suis assise à la seule place disponible dans la classe, qui se trouvait être celle juste devant lui. Et à côté de moi, donc une jeune fille donc, qui est devenue une copine après et qui s'appelle Aurélie, a commencé à me présenter un peu discrètement, parce que j'étais quand même en cours de maths, me présenter toute la classe. Alors là, c'est un tel, une telle, une telle, tout ça. Et donc ensuite, elle passe à ceux qui étaient derrière, donc Rudy, mon chéri, et Nicolas, un de nos meilleurs amis. Donc on se retourne et elle me dit, voilà, et donc Nicolas et Rudy. Et là, nos regards se croisent et je vois, mais j'ai tout de suite été marquée par ses yeux très, très pétillants, très doux et un immense sourire jusqu'aux oreilles. Et là, paf, quoi. J'étais fichue.
C'est incroyable.
Ouais, non, clairement.
Donc, t'as senti qu'il se passait quelque chose.
Alors, après, on avait 15 ans. Donc, clairement, ni l'un ni l'autre, on ne se serait imaginé qu'on allait passer toute notre vie ensemble. Enfin, c'était... On n'y a jamais réfléchi. Ça s'est fait comme ça. C'était naturel.
Donc du coup, vous mettez ensemble. Mm. Comment est-ce que la vie à l'étranger en fait commence à apparaître dans, je sais pas, dans vos projets de vie? Est-ce que c'est un truc un peu un rêve d'ado qui plane au loin, ou est-ce que finalement ça s'est fait complètement différemment?
Alors c'était pas du tout un rêve d'ado, et même je me souviens de Rudy à cette époque-là, et je le taquine aujourd'hui et on en rigole. Il était mais anti-langue anglaise, il ne voulait pas apprendre l'anglais, il ne voulait pas partir en vacances, il disait « oui, je ne vois pas l'intérêt de voyager, on dépense de l'argent pour rien, moi tu me donnes un ballon de foot, mes potes, et je suis très content, enfin j'ai vraiment aucun intérêt ». Et moi j'ai toujours eu très envie de voyager, mais j'avais jamais pensé à vivre à l'étranger. Donc bon, après, voilà, on a grandi, on a évolué, heureusement. Et lors d'un séjour en Thaïlande avec ma meilleure amie, c'est là où ça a fait un gros... Donc chez moi, ça fait vraiment un gros tilt. Donc je me souviens, pour la petite anecdote, on était dans un Starbucks, le cliché, de Bangkok. Et là, à côté de nous, il y avait... Bon, bah, clairement, on voyait que c'était un expat, c'était un homme de type occidental, en costard-cravate, devant son ordinateur, en train de bosser. Et c'est là où j'ai pris conscience. C'est peut-être bête hein, de jamais y avoir pensé avant, mais je me suis dit, oh, mais c'est possible de ne pas juste voyager, mais aussi de vivre à l'étranger.
Ah oui, d'accord. En gros, tu réalises qu'en fait... Le voyage ne passe pas que par les vacances.
C'est accessible.
Quoi,
voilà, c'est ça, que c'est une réalité. C'est pas juste comme... avant, c'était un peu, peut-être plus un fantasme, comme quand tu te dis, oui, tiens, si je gagnais au loto. Tu vois, je l'avais jamais envisagé comme quelque chose de réellement à la portée de tous et de réellement possible. Pour moi, c'était vraiment un coup de bol de dingue, un milieu très fermé. Voilà, je pensais pas du tout que c'était possible. Et ben là, ça a carrément changé ma vie. Quand je suis rentrée en France, j'ai changé l'orientation de mes études.
Ouais, tu étudiais quoi à l'époque ?
Alors, je voulais être professeure des écoles dans l'éducation nationale. Et j'ai basculé vers le français langue étrangère.
Le fameux FLE dont on entend parler.
Le fameux FLE, voilà. C'est ça. Je sais que tout le monde connaîtra, on aura entendu parler. Donc oui, voilà. J'ai totalement changé. Et puis,
et t'en parles à Rudy, du coup, tu lui expliques tout ça ?
Ouais, ouais, il a toujours été très ouvert. On a toujours pu parler de tout sans aucun tabou, s'écouter, se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre les points de vue différents. On peut vraiment avoir des conversations, même sur des sujets un peu tendus. On a des conversations... bienveillante et sans avoir besoin de se disputer ou d'être dans la tension, tu vois. Donc voilà, on a toujours pu en discuter et il s'est montré très ouvert.
Alors qu'avant, il t'avait dit que ça l'intéressait pas.
Non, mais clairement. Mais on a bien évolué ensemble aussi. Il s'est ouvert à l'idée. Ça lui a beaucoup plu. Il s'est renseigné. On s'est renseigné ensemble. Il a fait plus attention à son anglais. Et okay. Voilà, et au final, ça s'est fait.
Au final, il faudra attendre l'âge de 27 ans pour que Emeline et son Rudy s'envolent à l'étranger. À l'époque, ils partent en Australie. Mais avant de vous raconter ça, il faut revenir sur un événement qui s'est passé dans la vie de jeune adulte de ces deux amoureux, un événement qui va lui aussi définir leur futur. À l'époque, Emeline a 22 ans.
Ça a marqué un réel tournant aussi. Et c'était donc cette histoire s'est passée quelques mois avant ce fameux voyage justement en Thaïlande. Donc ça a participé à ce... C'est pas juste le fait d'avoir vu cet homme avec son ordinateur dans le Starbucks qui m'a fait changer totalement d'orientation de vie, mais c'est un tout. Quand j'ai eu 22 ans... On est parti en voyage en Égypte, pays absolument merveilleux. Mais bon, ben, je pense que tous ceux qui y sont allés le savent, le billet d'avion est vendu avec la tourista, très clairement. Ça fait partie du package. Donc on est parti fin août, on a passé des super vacances, mais l'Imodium était clairement notre meilleur ami. Hein. On a été malade pendant tout le séjour, même si ça reste un très beau souvenir. Bref, en revenant, c'est important pour la suite. En revenant, j'étais toujours malade, Rudy lui, plus du tout, tout allait bien de son côté. Et moi, j'étais malade, mais alors plus pareil. On va dire qu'au niveau des sensations, ça faisait un peu comme si j'avais une ceinture autour de la taille et qu'on serrait vraiment très très fort, ou qu'on me donnait des... Tu sais que j'avais un point serré au niveau du foie. Bon, à ce moment-là, j'étais en période de rattrapage de mes examens de fac, donc courant septembre. Je voulais tenir. Je disais non, c'est pas possible, je peux pas être malade pendant mes examens, il y aura pas d'autres dates. Donc j'ai pris des médicaments antidouleurs pour tenir, ce qui est une grave erreur. Toujours faire attention quand on prend des médicaments sans savoir ce qu'on a exactement. Je passe mes examens et mon état s'aggrave vraiment de plus en plus, pour en arriver à un point, pour te dire, où je ne pouvais même plus me tenir droite ni me déplacer debout. C'est-à-dire que pour aller de mon lit à la salle de bain, j'y allais en rampant. Presque, tu vois, à quatre pattes. Vraiment.
Et là, il s'est passé combien de temps depuis que tu es rentrée?
Ben, ça allait très, très vite, parce que ça, c'était tout début octobre, fin septembre ou début octobre. Donc, mon état s'est aggravé, mais en un éclair. Donc, j'ai consulté un gastro-entérologue qui m'a fait faire des prises de sang, je ne sais plus, je crois que c'était 24 heures ou 48 heures d'intervalle. Et là, donc, après les résultats de la deuxième prise de sang, je vois qu'il m'appelle sur mon portable, ce qui n'est jamais bon signe. Là, tu commences un peu à stresser. Et il me dit, mademoiselle, il était en panique. Enfin, ça s'entendait dans sa voix, même s'il est resté professionnel. Mais voilà, en gros, il m'a dit, voilà, mademoiselle, je n'ai jamais vu de résultat pareil. Là, c'est foudroyant. J'ai contacté...
Mais genre, il t'annonce ça au téléphone ? On n'annonce pas ça au téléphone, généralement, des trucs pareils.
Ouais, non, mais j'étais vraiment... et comme ça, je n'ai jamais vu de tels résultats. J'étais décomposée, comme je pense que tout le monde pourrait l'imaginer. Et il me dit, voilà, j'ai déjà pris les devants, j'ai contacté l'hôpital, l'Interco de Créteil, donc on était en région parisienne à ce moment-là, c'était l'hôpital le plus proche et avec lequel ils travaillaient. Donc allez-y, mais immédiatement, ils vous attendent, ils savent, ils sont au courant, ne perdez pas de temps,
mais
allez-y
il te
tout
dit
de suite.
Quoi ? À part te dire que les résultats sont pas bons, il te dit quoi ? Il te dit rien ?
Rien ? Non !
Enfin, c'est super parce bizarre, ça, mais...
Ouais, je sais, ouais, non, mais attends, tu vas voir la suite. Ouais, non, sans diagnostic, puisqu'on ne savait pas ce que j'avais.
Ah d'accord, il ne sait pas, mais pour lui, c'est hyper urgent, c'est pas bon, quoi. D'accord.
Oui, voilà, parce qu'en fait, mon corps produisait... je suis désolée, c'est un peu plus... Là, c'est le matin, donc tout est un peu flou, j'ai plus les termes médicaux exacts en tête ou devant les yeux, mais mon corps produisait... des anticorps contre mon foie. Donc, mon corps détruisait mon foie. Et a priori, au vu des résultats, il l'avait sacrément bien attaqué. Il en restait plus énormément à ce moment-là, en très peu de temps. D'où l'urgence. Donc ma mère, qui était juste à côté à ce moment-là, m'emmène à l'hôpital. On me dit toujours rien. Je passe plein d'examens, dont une échographie du foie qui était absolument mémorable. Donc le médecin qui m'a pratiqué l'échographie dictait ses notes à sa secrétaire, mais toi...
Devant toi.
T'étais juste ouais, et puis toi, t'es un morceau de chair, quoi. Il se rend pas compte de ce qu'il dit. Donc il est là en train de chercher, et il dit « Les métastases... »
Oh,
dans ma tête, métastases cancer, je sais, tu vois. Oui. Je sais ce que c'est. Et là, le blanc le plus long de ma vie, avant qu'il sorte. Il n'y en a pas.
Oh la vache.
C'est horrible.
Ah, la vache. Ah ouais, d'accord.
Je te jure, aujourd'hui, je rigole, mais c'est atroce.
Un grand 8, le truc. Oh.
Un grand 8. À la fin de la journée, donc, je suis dans ma chambre d'hôpital avec ma mère. Arrive mon gastro-entérologue, livide. Et là, pareil, franchement, on dirait que ça paraît tellement énorme quand je le raconte. Je te jure, heureusement que ma mère était là pour témoigner que ça s'est bien passé comme ça, parce que tu te dis, c'est pas possible, on est dans un film pour faire pleurer dans les chaumières. C'est incroyable. Donc, il arrive livide, j'étais dans mon lit, il prend une chaise, il s'assoit à côté de moi, il me prend la main et il me regarde avec les yeux humides.
le docteur est en larmes aussi, quoi.
Ouais, il était profondément touché devoir m'annoncer ce qu'il allait m'annoncer.
Oh la vache, d'accord.
Et là, bon, mon cerveau s'est plus ou moins mis sur off, en mode survie. Hein. Donc, tu sais, dans ces moments-là, t'écoutes, mais ça fait un peu un ouin, 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 ouin.
Ça rebondit, ouais.
Ouais. Et donc, il me dit, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi votre corps a cette réaction. Mais voilà, aujourd'hui, il vous reste, je ne sais plus, je crois que j'avais presque, il restait à peu près peut-être 30% de mon foie. Donc, mon corps l'avait sacrément bien détruit. Et c'était pas parti pour s'arranger. Au vu des résultats.
Ouais, ça s'arrêtait pas, quoi.
Non. Et il ne savait pas comment l'enrayer. Il savait pas d'où ça venait. Bon, voilà. Ouais. Et moi, j'aime pas la langue de bois, tu vois. J'aime bien savoir ce qu'il en est. Donc, je lui pose la question. Je lui dis, mais concrètement, au niveau de mon espérance de vie, donc là, il blablatait, il noyait un peu le poisson. Donc, je lui ai demandé cash. Donc là, on était fin septembre, début octobre. Je lui ai demandé, OK, est-ce que je vais passer les fêtes de fin d'année? Est-ce que je vais fêter Noël? Et là, il me regarde dans les yeux et il me dit, je n'en ai aucune garantie. Sur ce, après, bon, ça ne se termine pas exactement comme ça, mais moi, mon cerveau, le souvenir s'arrête à ce moment-là, si
ouais,
tu veux.
Bah ouais, c'est le plus choquant, j'imagine.
Très clairement. Et donc, il sort. Ma mère et moi, on ne peut même pas se regarder, sinon c'est foutu. On se met à pleurer. Et on voulait se protéger l'une l'autre. En ne pleurant pas tout de suite pour se soutenir. Donc, ma mère me dit, bon, je vais prendre un petit café. Je lui dis, oui, oui, vas-y. Donc, évidemment, elle fond en larmes de l'autre côté de la porte. Moi, je fonds en larmes sous mes draps. Et le premier truc que je me dis à ce moment-là, là, je me dis pas, ah non, j'ai pas eu d'enfant, ou, tu vois. Je me dis, j'ai pas assez voyagé. Je veux voir le monde, je peux pas. Enfin, c'était vraiment une grande souffrance de quitter ce monde en ayant vu, au final, peu de choses, tout est relatif, hein, mais moins que ce que j'aurais voulu. Quand même fait la Grèce, l'Égypte, bon, c'était pas non plus, voilà. Mais bon, je voulais vraiment voir plein de choses. Et moi qui adore l'océan, le monde marin, tout ça, j'ai pleuré en disant « Non, je peux pas mourir. » Ça m'émeut d'en parler. Là. En plus, avec les hormones de la grossesse, mon Dieu.
Bah oui, j'imagine, ma pauvre.
Mon Dieu. Et là, je me dis « Non, je ne peux pas quitter ce monde sans avoir vu Bora Bora. »
Ah ouais, comment tu penses à Bora Bora?
Parce que pour moi, c'était le goal ultime.
D'accord.
De voyage, tu vois, le truc que je m'étais toujours dit,
hyper
une
lointain.
Fois dans ma vie, hyper cher, hyper lointain, très difficile d'accès, tout ce que tu veux, mais absolument magnifique.
Avoir une
cette idée d'un petit paradis sur terre avec des couleurs de dingue, la culture polynésienne, la danse, enfin tout de A à Z. J'en avais une image extrêmement idéalisée, je pense, comme beaucoup peuvent avoir. Et je me dis, non, je veux mourir à Bora Bora. Il est hors de question que je meure dans cet hôpital. Ouais. En plus, il n'y avait aucun traitement. Il n'y avait rien. Je n'arrivais plus à m'alimenter, rien. La seule chose, c'était une perf avec, je ne sais plus, c'était du sérum et du...
Pour t'hydrater.
Un peu de sucre, je sais même plus. Ouais, voilà, c'était juste ça. Donc, il n'y avait même pas d'antidouleur, il n'y avait rien. Donc, bon, foutu pour foutu, j'ai envie de te dire. Donc, ma mère revient et je lui explique. Rudy arrive, mon père aussi, et je leur dis, je fais, non, mais là, il faut qu'on trouve quelque chose. Je sais pas, on me met un crédit sur mon dos, je sais pas, on embobine la banque, j'en sais rien, on trouve une solution.
À la vache, tu vas vite, quand même, parce qu'on vient juste de t'annoncer ça, quand même. Et toi, t'es déjà partie.
Non, mais c'est ça. Mais c'est le... Ouais, c'est ça. Ça a toujours
t'es
été...
T'es déjà sur la fraude.
Oui, voilà. C'est toujours, OK, rebondir l'après, un objectif.
Ouais.
Tu vois
ouais.
Et je leur dis, voilà, il faut qu'on organise une fête avec la famille, les amis, sans leur dire pour que je puisse leur dire au revoir, mes amis, tout ça. Et après, on se casse à Bora, dans un camping, hein, ce que tu veux, je m'en fiche, mais je veux mourir face au lagon. Je veux avoir ces dernières images devant les yeux. Dieu merci, c'était une fausse alerte. En fait, le lendemain ou deux jours après, je ne sais plus, mais ça a été très rapide. Finalement, bon alors non, je rigole, mais le médecin était totalement décomposé, hein, bien sûr, d'avoir annoncé une chose pareille, alors qu'en fait, ce n'était qu'une hépatite A foudroyante, extrêmement aiguë.
D'accord.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'hépatite A, c'est quelque chose de tout à fait bénin. Tu peux même contracter l'hépatite A sans t'en apercevoir ou en ayant un peu mal au ventre et basta. Donc, ça attaque ton foie, mais ton corps se reconstruit derrière. Alors aujourd'hui, je vais très bien, Dieu merci. C'était une forme aggravée avec une réaction auto-immune, tout ce que tu veux. Alors pareil, on ne sait pas pourquoi ça a produit un tel truc chez moi.
Mais l'horreur, c'est pourquoi vous êtes passé, sérieux.
Mais l'horreur absolue. Et clairement, mais la délivrance et le soulagement à la fin. T'es là, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est un sketch, quoi. Pour ceux qui connaissent un peu la série H, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais tu te dis, mais c'est pas possible, je suis dans l'hôpital de H, c'était le docteur Strauss, qu'est-ce qui se passe?
Cet épisode bouleversant et plutôt terrifiant pour Emeline et sa famille se finit fort heureusement bien mieux qu'il n'avait commencé. 15 ans plus tard, Emeline nous raconte le sourire rivé sur le visage à la suite de ses aventures. Des aventures qui l'ont menée autour du monde. Car s'il y a bien une promesse qu'elle s'est faite depuis son lit d'hôpital, lorsqu'elle envisageait le pire, c'est que le voyage ferait partie de son futur.
J'étais vraiment dans cette urgence de voyage, de brûler la vie aussi un peu par les deux bouts, mais de voir plein de choses, de vivre pleinement.
Une envie de vivre, une envie de d'avancer, de découvrir encore plus.
Ouais, d'arrêter de me prendre la tête pour des trucs débiles, tu vois, vraiment d'essayer de... Tu prends conscience que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est pas juste une phrase en l'air comme ça, c'est quelque chose de réel et qui peut arriver à absolument tout le monde. Parce qu'avant ça, j'ai toujours été en parfaite santé. Il ne m'était jamais rien arrivé, à part les trucs basiques, grippe, gastro, que tout le monde a. J'ai toujours été en très bonne santé. Les médecins n'ont toujours pas compris pourquoi j'avais fait une réaction auto-immune et à ce point-là.
Ouais, donc en fait, cet événement a été annonciateur finalement de la suite d'une certaine manière, en tout cas un déclencheur de se dire ok, je veux pas un jour m'en aller avec le moindre regret, let's go quoi.
Ouais, c'est ça. Donc là j'ai dit ok, ciao la sécurité de l'emploi avec l'éducation nationale, ok, c'est pas grave, mais je veux ma liberté de mouvement, de pouvoir... aller dans les pays que je veux ou les villes que je veux, même en restant en France. Mais voilà, je voulais vraiment, j'avais ce besoin d'être libre. Et je pense que c'est aussi pour ça que Rudy a été autant à l'écoute par rapport à mon envie de vivre à l'étranger. Et il a eu très très peur de me perdre, bien évidemment. Donc ça change aussi beaucoup de choses des deux côtés.
Donc du coup, vous pivotez votre vie, vos vies personnelles et votre vie de couple. Et donc, c'est quoi? C'est 3-4 ans plus tard que vous vous envolez pour l'Australie?
C'est ça, le temps que les deux, qu'on finisse nos études tous les deux, qu'on économise aussi, parce que tenter une expatriation en Australie, surtout que bien sûr, on avait visé Sydney, quoi, tant qu'à faire. Hein. Donc c'est le... Déjà, même par rapport au visa, je sais plus. Donc, on est parti avec un visa PVT, là, les Working Holidays.
Les permis vacances-travail?
Voilà, c'est ça. Mais il fallait, je sais plus quel montant minimum sur ton compte en banque pour pouvoir partir. Enfin bon, voilà, ça s'improvisait pas non plus comme ça, surtout pour deux étudiants. Donc, le temps que tout se fasse, voilà, ça a pris quand même quelques années.
Vous avez quoi comme projet? Enfin, je veux vous partir dans quelles conditions? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu? Puisque du coup, je sais que c'est l'expatriation qui, a priori, s'est pas super bien passée. J'aimerais bien que tu me racontes à quoi vous vous attendiez et comment ça s'est passé, justement.
Mais c'est ça. Bon, alors, à l'époque, en tout cas, nous, on n'avait pas Instagram, tout ça, pour avoir des infos sur l'expatriation.
Oui, on est vieux.
C'était quand même... Mais je te jure, non mais ça pique, hein, je vais me recoucher après, je vais déprimer. Mais voilà, il y avait quand même beaucoup moins d'accès à l'information qu'aujourd'hui, je trouve. Et peut-être aussi encore une époque, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu seras d'accord avec moi, mais où quand même sur pas mal de sujets, les gens avaient tendance à ne raconter que le bon côté des choses et à être moins dans l'aspect vie réelle.
Le début des réseaux sociaux, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, faut envoyer du rêve. Donc, ouais, l'Australie, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est génial, c'est... Donc toi, bien évidemment, tu arrives en te disant « Hey, ça va être super simple. »
Moi aussi, j'en veux.
Mais très clairement, bien sûr, ça ne se passe pas comme ça, c'est évident. Et alors, peut-être notre erreur, ou je ne sais pas, mais... On n'avait pas du tout cette idée de faire du picking, de travailler dans les champs, de faire des petits boulots comme ça pour visiter l'Australie. Notre but, c'était vraiment de trouver un métier qui correspondait à nos études et de nous installer réellement. Or, à l'époque, avec les problèmes de visa, tout ça, débarquer comme une fleur à Sydney... même avec mon diplôme en français langue étrangère, le diplôme en ressources humaines de Rudy, tout ça, mais c'est quasi mission impossible. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas réussi. C'est... Même pour travailler à l'Alliance française, j'avais vu qu'ils ne pouvaient pas m'embaucher parce qu'il fallait, je ne sais plus quel type de visa, mais qui est extrêmement compliqué à obtenir. Donc, on s'est retrouvés un peu comme des andouilles. Et en plus, la vie coûte mais hyper cher. On était en coloc, hein, bien évidemment, une coloc qui, en plus, s'est pas bien passée. Enfin, franchement, on les a toutes enchaînées. Et oui, et au bout d'environ un mois, on s'est rendu compte qu'on avait dépensé quasiment la moitié de toutes nos économies.
D'accord, donc ça allait vachement vite, quoi.
Ça allait hyper vite. Et juste pour ce qui est survie de base, les courses, ton loyer... tes déplacements, parce qu'évidemment, on était dans la banlieue de Sydney, et pas Sydney même, vu les tarifs, mais bon, tout ça, ça a un coût. On se rendait compte aussi de la complexité pour obtenir un emploi donc, qui correspondait à ce qu'on recherchait. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Soit, option 1, on change de ville. On se tente Melbourne, qui avait l'air d'être un peu plus accessible sur le papier et par rapport à nos discussions avec des expats là-bas. Soit on se tente ça, et bah, si ça ne marche pas, bon, bah, on reste un mois et on rentre à Paris, quoi. Soit, pour la même somme, on peut se faire un road trip backpacker en Asie du Sud-Est.
Ah.
Je t'avouerai qu'on n'a pas réfléchi longtemps.
Bah,
le côté one life, hein, carpe diem, clairement, mais on s'est barré en Asie du Sud-Est et on a vécu 6 mois fantastiques de vacances. Alors là, c'était plus rien à voir avec l'idée de départ, mais c'était fantastique. Et pendant ces 6 mois-là, j'ai envoyé ma candidature comme ça, tu sais, un peu à droite à gauche dans les écoles francophones internationales et tout. Je me suis dit, bon, on sait jamais sur un malentendu, une place qui se libère. Bon, peanuts, c'est pas grave. On rentre, je sais plus, ça devait être le mois de mai ou juin. Rudy signe tout de suite un CDI avec son ancien employeur parce que ça se passait très très bien. D'ailleurs, son ancien chef et un de nos meilleurs amis a été son témoin de mariage. Donc, c'est dire si ça se passait bien, qu'ils étaient très heureux de se retrouver. Et bah, moi, c'était au mois d'août, je reçois un mail de l'école francophone de Pattaya en Thaïlande. Et alors, la Thaïlande, qui était clairement, ça a toujours été ma target numéro un. C'était le rêve ultime de l'expatriation. Hein. Je m'étais dit, non, mais il faut qu'un jour on aille vivre là-bas au moins un an. Voilà. là, en plus, le pays de rêve, bon, clairement pas la ville de rêve, pour ceux qui connaissent, mais c'est pas grave, c'était quand même la porte sur l'expatriation dans le pays. Donc, il me demande si je suis toujours disponible, parce qu'il a un poste pour moi pour la rentrée de septembre. Donc, c'était même pas enfin, quelques semaines après.
C'était quelques semaines après.
Oui, voilà, donc, même pas d'entretien, rien, il avait mon dossier, c'est bon, t'es libre, je te prends, quoi. Donc là, pareil, il a fallu être réactif très vite. J'étais en vacances dans le sud de la France avec ma mère en plus. Donc j'appelle Rudy, je lui explique, j'ai qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est un amour. Il m'a tout de suite dit, écoute, on se débrouillera, on va y arriver. On est un couple solide, on est ensemble depuis longtemps, on a traversé tellement de choses. On peut survivre à la distance, on y arrivera. C'est ton rêve, je te rejoindrai. Mais accepte, pars. Il me dit, voilà, je peux pas te dire de ne pas prendre.
Je peux pas venir en même temps que toi, mais.
Non, il pouvait pas. Voilà, comme il venait de signer le CDI. En fait, franchement, il serait venu. Il serait venu en même temps. Ça aurait été un coup très dur pour son employeur. Et clairement, c'est éthiquement parlant, c'était juste pas possible. Mais il m'a dit, je n'ai pas le droit de t'empêcher de le faire. Je m'en voudrais toute ma vie. Et si l'occasion ne se représente pas, tu m'en voudras aussi à un moment donné, même inconsciemment. Ouais. Donc,
donc du coup, toi, tu te dis, OK, let's go, j'y vais.
Bah ouais. Le lendemain, j'envoie le mail. Mais je te jure, j'ai tremblé après avoir appuyé sur envoyer. J'ai pleuré. C'était mi-excitation, mi-j'ai fait une connerie, tu vois. Ouais. C'était entre les deux. Et ouais, je suis partie toute seule. Mais j'avais jamais vécu toute seule de toute ma vie.
Quand vous êtes rencontrés au lycée, vous avez toujours été ensemble, quoi.
Je suis partie de chez mes parents pour vivre avec lui à 18 ans, quoi, très clairement. Donc là, toute seule, à l'étranger, bon, dans un pays que je connaissais hyper bien, puisque entre le premier séjour et cette expatriation-là, j'ai dû y aller peut-être 6 fois. Donc j'étais vraiment amoureuse.
D'accord. Ah oui, quand même.
Ouais. Donc même si je connaissais pas du tout la ville, parce que je l'avais toujours évité comme la peste, je connaissais très bien le pays. Donc c'était pas comme pour l'Australie, quoi, si tu veux. Je savais quand même où je mettais les pieds. Mon contrat, c'était pour toute l'année scolaire, donc pour un an. Donc, je savais que j'y restais au moins un an. Et après, voilà, ce sont les contrats de FLE. Donc, c'est toujours assez précaire, sauf quand tu as beaucoup de chance. Mais voilà, ce sont des contrats au mois ou à l'année maximum, donc qui se renouvellent ou pas, après, à chaque fin de période.
Comment ça se passe alors du coup là-bas ? Comme tu dis, c'est pas forcément la ville de tes rêves, mais c'est le pays un peu de tes rêves. Alors comment ça se passe ? Ton emploi, ta vie, ton arrivée, comment tu découvres ? Parce qu'il y a, comme tu dis, quoi, il y a voyager et il y a vivre à l'étranger.
Globalement, ça s'est quand même... Oui, si on reste dans le global, très bien passé. Alors, j'avais trouvé un logement avant de partir, ce que je ne recommande par contre pour rien au monde, puisque bon, ça, je dis que ça s'est bien passé, puis je commence par une anecdote où je me fais arnaquer, j'adore. Mais ça s'est résolu très très vite, donc on sait que bon, dans la globalité, ouais. Je garde le positif quand même. Mais voilà, j'avais. Mes parents érudits ne voulaient pas me laisser partir seule, surtout à Pattaya.
Alors pourquoi ? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas.
Vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est réputé comme étant. La station du tourisme sexuel en Asie du Sud-Est. Alors, go-go bar à fond, un peu comme le quartier rouge. Au final, c'est un peu comme Amsterdam, si tu veux. C'est-à-dire que tu as un quartier chaud, mais voilà, quoi. C'est pas non plus une ville forcément à éviter en soi. Il y a plein de trucs très sympas aussi à y faire. Mais disons que l'image que tu en as, c'est l'image, le tourisme sexuel. Donc, c'est pas fou en tant que femme seule de débarquer là-bas. Donc, ma famille voulait absolument que j'aie un logement sécure avant de partir.
D'accord. Donc, à trouver en un temps record, du coup.
J'ai trouvé auprès... Donc, tout semblait inspirer la confiance sur le papier parce que c'était une entreprise essentiellement à destination des expats français qui venaient s'installer en Thaïlande. et dont en plus le directeur de l'antenne de Pattaya était parent d'élève dans l'école où j'allais bosser. Donc tu te dis, bon...
Rassurant.
Au final, c'était une méga arnaque puisque le loyer était genre trois fois le prix de ce que tu peux trouver extrêmement facilement de même qualité, de même standing. Hein. Bien sûr, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, je suis restée un mois. J'ai perdu 600 balles de caution. J'étais assez dégoûtée. Mais ce qui est énorme compte tenu du coût de la vie là-bas et du fait que mon salaire était d'un peu moins de 400 euros par mois. Donc, perdre 600 balles, t'as un peu les glandes quand même. Mais bon, voilà, j'ai trouvé très rapidement un autre logement qui était super bien, dans lequel je suis restée toute l'année. Voilà, c'est très, très bien passé. Voilà. Mais après, au niveau de l'école, les collègues étaient sympas. Les enfants, écoute, franchement, c'était top. Mais j'en garde vraiment une expérience humaine très enrichissante et malgré tout de très bons souvenirs.
Et alors, vous êtes restée combien de temps sans vous voir avec Rudy? Alors, parce que t'es partie toute seule, donc initialement?
Ouais. Donc, il est venu me... Quelle horreur. Je repense à tout ça, mon Dieu.
Ça te paraît loin, hein, t'imagines?
Je te jure. Donc, il est venu pour les vacances de Noël. Donc, au bout de... Comme je suis partie fin août, ouais, au bout de 3-4 mois, quoi, à peu près. Hein. Il est resté 2 semaines. Et après, il m'a rejoint... Alors, attends, je suis rentrée en France pour les vacances de février. Alors, en plus, j'ai choisi ma période. Bonjour, le décalage au niveau du climat. Je suis venue passer 2 semaines. Et c'est là où il m'a demandé en mariage, d'ailleurs. Donc, comme quoi...
Wow.
Mesdames, partez, fuyez quelques mois et ça passe ou ça casse. Mais voilà, et il m'a rejoint, je ne sais plus, attends, je crois que ça devait être peut-être en avril, fin avril ou au mois de mai, quelque chose comme ça.
Et lui, du coup, il t'a rejoint dans quelles conditions à ce moment-là?
Il avait mis fin à son CDI, c'était...
Ah oui, d'accord. Il n'avait pas essayé trop de transférer ou de...
C'était pas possible. C'était pas possible de transférer ou quoi. Donc, il a mis fin à son CDI pour me rejoindre et essayer de trouver du travail une fois sur place avec le réseau, avec ses compétences en anglais qui, à l'époque, étaient déjà bien... étaient suffisantes, on va dire, c'était correct. Donc voilà, il m'a rejoint pour tenter le coup.
Comment ça se passe? Vous restez combien de temps tous les deux en Thaïlande?
Donc au final, en tout, on y est resté un petit peu moins que 3 ans. J'arrondis à 3 ans parce que c'est presque ça. On a vécu ensuite, après Pattaya, on a vécu à Bangkok. Là, on a préféré. Bon, c'est très différent, mais voilà, on s'est vraiment bien éclaté à Bangkok. Après, le souci, c'est que lui n'arrivait vraiment pas à trouver d'emploi. Il a essayé des entretiens d'embauche, tout ça... Mais alors déjà, le secteur des ressources humaines, à moins d'arriver à attraper le pompon, donc un poste dans une entreprise internationale, un poste d'expat, mais bon, là, c'est vraiment un coup de bol, les RH sont vraiment fermés aux non-thaïlandais. Ça fait partie des emplois protégés. Donc, ben, c'était compliqué. Il a essayé de se reconvertir, il a postulé pour différentes choses, mais ça n'a pas marché. Moi, à côté, par contre, ma carrière... explosé, c'était vraiment top. Mais lui, pas du tout. Et autant, voilà, moi, je suis pas quelqu'un de forcément carriériste ou voilà. J'aime mon travail, mais je peux, enfin, c'est pas vital pour moi. Je ne me définis pas dans le travail. Je peux très bien, bah là, tu vois, ça va faire 6 ans qu'on est à Tahiti et que je ne travaille pas, bon, pour différentes raisons, mais je n'en souffre pas. Ça va, je le vis bien. Rudy, lui, pas du tout. En plus, bon, sans être macho, mais quand tu rencontres les gens et que, bon, bah là, c'est l'homme qui travaille pas et la femme qui travaille, c'est assez... T'as un regard de la société, quand même, qui est pas hyper agréable sur l'homme. Mmh. Ouais, voilà. Donc, ça devenait vraiment très difficile à vivre pour lui. Donc, il a réfléchi à une reconversion, à reprendre des études qui lui permettraient de trouver plus facilement un emploi à l'étranger. Donc, on en a beaucoup parlé. Voilà. Il a trouvé. Donc, maintenant, il travaille dans le tourisme, dans l'hôtellerie. Mais pour ce faire, il lui a fallu passer un MBA de 2 ans en France. Donc, on est retourné en France pour ses études, enfin pour sa reconversion.
D'accord. Sachant que la vision au long terme était toujours de...
On fait ça
pour pouvoir repartir à l'étranger, quoi.
Ah, très clairement. Et puis, on avait plein de super contacts, plein d'amis en Thaïlande. Moi, plein de contacts pro qui m'attendaient plus ou moins aussi. Enfin, vraiment, Enfin, la porte était grande ouverte pour mon retour. Ils savaient que le projet, c'était de revenir. Donc, voilà, l'idée, c'était ça. On va en France. Donc, un an et demi, parce que la deuxième année, t'as un stage de 6 mois. Donc, on visait de faire le stage déjà en Thaïlande. Au final, donc arrivé à la période de ce fameux stage de 6 mois, un soir, il rentre donc de l'école et il me dit « Bon, ma chérie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » Bon. All right. Bon, la bonne, c'est que j'ai trouvé un stage. Et c'est pas en France. Ok. Déjà, ça commence bien. Okay, vas-y, annonce. Ça c'est quoi la mauvaise? Ouais. Voilà. Et la mauvaise, c'est que c'est pas en Asie. Merde. Bon, ok, bon, c'est pas grave. C'est où? Bon, on avait une liste noire de destinations, clairement non. Mais sinon, on est toujours quand même très ouvert, pas de souci.
Voilà. D'accord.
Et il me dit, c'est en Polynésie française à Tahiti.
No way.
Ouais, là, je le regarde avec les gros yeux. Je lui dis, mais ma valise est prête depuis 1985. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci. comment te dire si c'est ça ta mauvaise nouvelle? Mais gars, je voulais mourir à Bora Bora il y a quelques années. Enfin, c'est pas la même île, ok, mais c'est pas grave. On s'en approche déjà, tu vois. On y va. Ah, pareil, on est parti, mais avec l'idée d'y rester que 6 mois.
Pour le stage, quoi.
Ouais, voilà, on ne savait pas si on allait y rester plus ou quoi.
Donc, tu es quand même vachement flexible. Enfin, je veux dire, tu étais amoureuse de la Thaïlande, amoureuse de l'Asie.
Ouais, avec ma carrière qui explosait, s'il te plaît, n'oublie pas, mais ouais.
Tu étais prête à réenvisager tous tes plans, en fait, en 2 secondes, quoi.
En 2 secondes, ouais.
La décision, elle a été prise en combien de temps, vos décisions de couple de partir à Tahiti?
Il fallait la prendre le jour même, il fallait qu'il donne la réponse le lendemain maximum, parce que forcément, il y avait d'autres personnes hein, sur le coup, tu penses bien. On connaissait rien, enfin rien du pays ici. Enfin, je veux dire, moi j'adorais déjà la culture. Voilà, on avait des grandes idées de la destination.
Mais vous y étiez jamais allé ni l'un ni l'autre.
Mais on n'y était jamais allé. On n'avait pas d'idée de la vie concrète. On savait que ça coûtait les yeux de la tête, mais voilà, on n'avait pas d'idée vraiment. Enfin, on ne savait pas trop où on allait. Et on s'est dit non, bah écoute, bah toujours pareil, hein, one life. Allez, écoute, c'est une opportunité, on va pas dire non, on y va, on verra bien sur place, au pire c'est pour 6 mois, écoute, bon, voilà, ce sera toujours une expérience professionnelle pour lui, très enrichissante et hyper bien sur son CV, au pire, enfin, pas grand-chose à perdre.
Donc toi, du coup, tu y vas en te disant que tu mets, entre parenthèses, ton job pendant 6 mois, du coup, puisque vous imaginez que vous partiez de manière temporaire?
Alors, moi, je n'avais pas retrouvé d'emploi dans ma branche en France, pendant la parenthèse française. J'avais trouvé des petits CDD dans l'immobilier, hors sujet total, mais c'était très sympa aussi. Il faut toujours savoir rebondir. C'était que des petits CDD, quoi. Donc, si tu veux, j'ai attendu la fin de du CDD qui était en cours pour le rejoindre après à Tahiti. Mais voilà, il est parti qu'un mois. D'accord. Avant moi, au final. Donc ça s'est plutôt bien goupillé. Mais oui, après notre discussion, lui est parti seulement un mois et demi après la proposition de stage. Donc on n'a rien eu le temps d'organiser. Hein. Il a cherché un logement une fois sur place.
D'un point de vue immigration, comme c'est... T'as des choses à préparer ou pas du tout?
Oui, alors, parce que bon, c'est un peu complexe, c'est la France, mais c'est pas la France.
Ouais, justement, c'est pour ça que je me
disais. Ouais, voilà, c'est pas comme partir en Guadeloupe, par exemple, pour comparer à une autre destination d'outre-mer. Là, la Polynésie, on a notre propre président, avec notre assemblée, nos ministres. C'est un pays d'outre-mer. Donc, c'est pour ça que je parle d'expatriation. Parce que sur le papier, on a dû faire exactement les mêmes démarches auprès de l'administration hexagonale que pour partir en Thaïlande. Et on a le même statut que quand on vivait en Thaïlande. Pour l'administration française, on a le statut d'expatrié. On a été radié de, j'allais dire la CPS, mais c'est ici, de la sécurité sociale hexagonale. Bon, on ne paye plus d'impôts, ça c'est le bon point.
Ah ouais, il n'y a pas d'impôts au Tahiti?
Non. Ben, mais bon, enfin, c'est vicieux parce que tes impôts, on va dire que tu les payes sur tout ce que t'achètes. La vie est extrêmement chère, mais tu n'as pas de feuille d'impôt. Donc oui, voilà, on a quand même eu des démarches à faire, bon, qui ont été au final relativement simples et assez rapides. Et après, sinon, tout se fait ici. Ici, c'est vraiment... faut être là. Vaut mieux se déplacer. C'est un peu encore à l'ancienne, on va dire, sur pas mal de choses. Soit aller dans les bureaux. Voilà, tu fais pas trop de choses en ligne. Donc, on a découvert après sur place.
Alors, donc, du coup, toi, est-ce que tu te souviens du jour où tu es arrivée à Tahiti pour la première fois?
Ouais, alors déjà, j'ai failli louper ma correspondance à Los Angeles. C'était génial, j'ai couru comme
pour
une
bien
dingue.
Commencer, super.
Non, mais ceux qui ont fait une escale technique à Los Angeles, mais je pense que tout le monde comprendra, mais c'est une horreur. C'est terrible, il faut courir. Il y a énormément de monde, c'était... Enfin bon, bref. Donc bon, je suis arrivée, j'étais déjà très très contente de ne pas avoir loupé ma correspondance. Hyper heureuse de retrouver mon chéri. Bon, ça faisait qu'un mois, mais quand même. Pour être très honnête, les débuts ont été assez difficiles pour moi. Je me suis retrouvée... Bon, déjà, c'était la saison des pluies. Il a flotté, mais non-stop pendant... Ouais, les deux premières semaines où je suis arrivée.
Ah ouais, d'accord.
Quand il pleut,
donc
il y a
loin
rien.
De tous les clichés qu'on a sur Tahiti.
Ah bah, si c'est vert et qu'il y a des arcs-en-ciel, c'est qu'il y a de la flotte à un moment donné, quoi, si tu veux. Hein, donc...
Bah oui.
Voilà, donc je suis arrivée pendant cette période-là. Mais oui, donc très loin de... Tu te dis, hey, pareo, tong, maillot de bain, je vais aller me baigner tous les jours, c'est merveilleux. Bon, déjà, on a trouvé un petit studio hors de prix. T'as l'impression d'être à Paris, je te jure, dans le centre-ville de Papeete, donc de la capitale, pour que Rudy puisse aller travailler à pied, parce que chose qu'on n'avait absolument pas anticipée, c'est qu'ici, tu peux t'asseoir sur les transports en commun. Il y en a, mais c'est... Alors, c'est de mieux en mieux. Là, cette année, il faut dire les choses quand même, ils ont pas mal amélioré le système. Mais non, le bus ou le bus, comme on dit ici, tu peux l'attendre des heures. Je veux dire, c'est... Et puis, tu sais quand tu pars, tu sais pas quand tu reviens. Hein. C'est...
Et comment ça se fait?
C'est comme ça, écoute, c'est une particularité
d'accord.
locale, je vais te dire.
Okay.
C'est comme ça. En tout cas, très clairement, tu oublies l'idée de te déplacer en transport en commun. Pars du principe que ça n'existe pas. C'est très compliqué. Donc déjà, nous en Thaïlande, partout où on avait vécu avant, on a toujours eu des transports en commun. Enfin, la voiture a toujours été un frein et quelque chose d'encombrant plus qu'autre chose. Donc, je sais que je vais choquer énormément de gens là tout de suite, mais nous n'avons jamais passé notre permis.
No way!
Je te jure, les
ah
bons
oui, donc,
parisiens
handicap,
de base.
Du coup, si t'arrives là-bas.
Mais très clairement, puisque en Thaïlande, on n'en a jamais eu besoin. Enfin, Rudy avait passé son permis scooter Thaï, mais bon, tu parles en dehors de la Thaïlande, évidemment, ça n'a aucune valeur.
Oui, c'est pas reconnu.
Et là-bas, bah, on avait le droit de conduire même un 125, même plus, enfin, tous les deux roues que tu souhaites, à partir du moment où tu l'achètes, et surtout à partir du moment où tu payes ton assurance, parce que c'est surtout ça que les policiers vérifient quand ils te contrôlent, mais tu conduis comme tu veux, en fait, tout le monde s'en fout. Donc nous, on conduisait le scooter, y avait des transports en commun hyper efficaces. Quand on est, donc, sinon on était de la région parisienne, quand on est revenu pour les études de Rudy, c'était Aix-en-Provence, mais bon, enfin voilà, t'as un réseau de transports en commun top aussi. Il y a la SNCF, on en dira ce qu'on veut, mais c'est quand même pratique.
Ouais.
ça a le mérite ouais. d'exister.
Fiable la plupart des jours.
En dehors des 360 jours de grève annuelle, c'est plutôt fiable.
Aïe, aïe, aïe.
Désolé ceux qui m'écouteront, qui bossent pour la RATP et la SNCF, je vous aime quand même. Mais on vous aime. Et voilà, clairement, on a débarqué ici. Pour nous, c'était inimaginable de vivre, qui plus est dans une capitale, sans qu'il y ait de transport en commun. Donc là, c'était un peu la claque, parce que ben, sans véhicule, clairement, tu ne fais rien. tu es coincé dans ton quartier. Donc nous, c'était la capitale, mais là, c'est assez difficile à imaginer aussi tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais Papeete, c'est vraiment minuscule. Et aujourd'hui, j'adore. Je pourrais difficilement vivre ailleurs, me réhabituer à des grandes villes. Mais il faut bien imaginer que quand tu as vécu à Paris, quand tu as vu Sydney, tu as vécu à Bangkok, que tu arrives et que la ville en elle-même, c'est plus petit qu'un arrondissement parisien et que le centre d'activité, c'est une rue quand même que tu parcours en moins de 10 minutes, ça fait bizarre. Tu vois, ça fait un peu drôle. Les plages, les premières plages pour te baigner sont à 15-20 kilomètres. Et tu peux pas le faire à pied. Bon, déjà, tu mettrais pas mal de temps. Mais au niveau des routes, tu marches pas, quoi, clairement. Enfin, même en vélo, ça peut être dangereux, c'est galère. Enfin, c'est pas fou. Il te faut vraiment un véhicule. Donc, je me suis retrouvée bloquée dans le studio en saison des pluies avec rien à faire en me disant, punaise, je suis à Tahiti, j'ai toujours pas vu le lagon. Enfin, si, tu le vois dans le port, quoi, avec les bateaux, mais je veux dire, je me suis toujours pas baignée. Il y a Moorea, qui est une des plus belles îles de l'archipel, qui a 30 minutes de ferry que tu vois de l'autre côté. Mais au début, avec toutes les dépenses, quand t'arrives, bah, c'est quand même un certain budget d'y aller,
ouais,
qui est pas ouf, mais bon, au départ, c'est quand même compliqué.
Ouais, tu peux pas tout faire, quoi, c'est normal.
Voilà! C'est ça, donc moi je me suis retrouvée un peu avec cette impression d'être le nez collé devant une vitrine, que t'as tout ce dont tu rêves qui est derrière, mais toi t'étais bloqué derrière la vitrine, donc c'est un peu déprimant. En plus avec Rudy qui travaillait toute la journée. Quand on est arrivé là, ils ont fait beaucoup d'efforts sur les prix des forfaits téléphone, internet, etc. Mais quand on est arrivé, c'était inenvisageable. D'avoir la Wi-Fi à la maison, il fallait aller à la supérette qui était à 3-4 minutes à pied, hein, c'était pas loin, pour bénéficier des 30 minutes de Wi-Fi gratuite par jour. Donc t'avais 30 minutes pour donner des news à la famille, tenter une mini-visio, voilà. Et sinon, après, t'étais devant France Télévisions.
Ah ouais, donc dur quand même, hein, les débuts.
Ah, le début, ça m'a fichu une claque. C'était vraiment à l'opposé total de tout ce que je pouvais imaginer.
Tu as eu des doutes ? Enfin, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que tu es toujours très déterminée.
Bah après, mais comme on a dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui rebondit quand même assez rapidement et assez facilement. Donc oui, ça m'a mis un coup au moral et une claque parce que je me suis dit, punaise, je suis là. Et j'en profite pas, quoi. Je fais rien, je peux rien voir. Il n'y a aucune excursion, il n'y a aucune sortie, il n'y a rien à faire. Parce que quand il pleut, t'as tout qui est annulé. Donc, tu te dis, mince, quoi. Si c'est comme ça pendant 6 mois, c'est les glandes. Surtout, comme tout coûte très cher, tu vois ton compte bancaire qui n'est pas en grande forme. Hein. Donc, ça pique. Mais au final, j'ai rebondi rapidement. Faut s'adapter. Tu trouves d'autres choses à faire. On a réussi à louer un scooter aussi. Ça, pareil, ça a changé beaucoup de choses à partir du moment où j'ai pu me déplacer. J'ai pu aller visiter toute seule en journée, aller à la plage.
Ouais, tu retrouves ton autonomie en fait aussi.
Ouais, voilà.
Ça joue vachement, j'imagine.
Ouais, c'est clair. Mais c'était hors de prix pour... Pour donner une idée, l'indemnité de stage de Rudy à l'époque, ça devait être dans les 600-700 euros. Notre loyer pour le studio, et c'est le moins cher que tu trouves, c'était un peu plus de 900 euros. Donc son indemnité de stage ne couvrait même pas notre logement.
Ne couvrait pas ?
Non.
Donc vous viviez sur vos économies ?
On a vécu sur nos économies, ouais. L'alimentation, ça coûtait hyper cher. Donc je parlais d'internet tout à l'heure, mais par exemple pour alors là je me suis pas rencardée sur les derniers prix, mais je pense pas que ça ait énormément bougé. Mais en tout cas à l'époque, pour avoir une box Wi-Fi à la maison, je te parle même pas du truc avec le satellite et le fixe, hein, je parle juste la box, la Wi-Fi, hein, fallait compter environ 300-400 euros de frais d'installation et après environ 120-130 euros de forfait mensuel. Et donc, c'était pas possible. Bon, je sais plus pourquoi je parle de ça, j'ai mon cerveau de femme enceinte, là, j'ai bugué le début de moi.
Non, mais donc, les débuts, donc, pas faciles, mais vous restez positif, vous êtes là pour 6 mois, enfin, pour 5, le temps du stage. À quel moment est-ce que le futur se précise, du coup? Parce que bah, tu nous parles toujours de Tahiti. Comment est-ce que ça évolue? Et puis, bah, comment est-ce que vous arrivez un peu aussi à sortir la tête de l'eau, finalement, de ces débuts un peu compliqués?
Bah, donc, en louant le scooter, et c'est là où, ça y est, je me dis, oui, c'est pour ça. La location d'un scooter, on en avait pour environ 200-250 euros par mois pour le louer uniquement les week-ends. Voilà, pour donner une idée de la complexité des déplacements. Donc, le scooter, ça nous a aidé à sortir la tête de l'eau au niveau bah, bien-être mental et psychologique.
Bien sûr.
On a pu, après, au bout de 2-3 mois, aller passer la journée à Moréa, juste en face. Donc,
Finally!
Ouais! Donc, ça, c'est top!
Et alors, c'était comment?
C'était quand même... J'ai pleuré, laisse tomber.
C'est vrai? Tu peux nous l'écrire, moi, je suis jamais allée. Je ferme un peu les yeux, vas-y, fais-moi rêver.
Bon, alors, bon, déjà, Tahiti, c'est magnifique. Hein, donc, ce sont des îles volcaniques. Donc, voilà, t'as de la montagne, c'est hyper vert, c'est entouré par un lagon bleu, mais le bleu de fou, la barrière de corail, derrière t'as l'océan Pacifique, hein, ce bleu spécial aussi, et Moréa, c'est la carte postale, c'est vraiment, voilà, Tahiti t'as beaucoup de sable noir, c'est un côté un peu, j'adore aussi, et qui est plus sauvage. Je sais pas si tu vois. Voilà, sable noir, végétation luxuriante. Moréa, c'est la carte postale polynésienne, c'est sable blanc à gogo, le lagon est encore plus bleu que bleu, vu que le sable est blanc, forcément, c'est dingue. T'as plein de poissons, tu nages avec les raies, les requins, les coraux, enfin c'est les tortues, c'est génial. Les baies, les deux baies de Moréa, là, sont sublissimes. L'intérieur de l'île aussi avec les cascades, alors que les cascades que t'as à Tahiti aussi. Voilà, Moréa, j'ai dit Mose, c'est l'habitude, c'est le petit nom qu'on donne ici, mais Moréa, c'est...
D'accord, voilà. Ok.
Carte postale polynésienne, 40 minutes de ferry de Tahiti. Voilà. Donc canon.
Trop bien.
Ouais, okay. Ça, tu vois, tu sais l'image que t'as là, les pilotis, tout ça. Donc c'est très joli.
Et alors, est-ce que la vie au quotidien ressemble en fait à ça, à cette carte postale de Tahiti?
Absolument pas. Enfin, absolument pas. On a la chance depuis 2 ans maintenant, on a déménagé parce que sinon on était resté dans le centre-ville de Papeete, on l'a depuis 2 ans. Notre vie est un peu un cliché, enfin, surtout la mienne vu que Rudy travaille et moi non. On habite à 300 mètres de la plage, donc très clairement, dès qu'il fait beau, j'y vais. Voilà, je mets juste les savates, comme on dit ici, donc les tongs, un pareo, mon maillot de bain. Je marche 2 minutes, je me baigne dans le lagon, il y a plein de poissons, c'est sublime. En saison, on voit les baleines sauter derrière la barrière de corail. T'es là, les fesses posées sur le sable tranquille et tu vois une baleine qui saute. Enfin, c'est dingue.
Magique.
Il y a des couchers de soleil de psychopathes avec les petits requins. Là, tu vois des requins qui sont... pas dangereux pour l'homme, je précise. Donc, tu vois le petit aileron là dans l'eau, tout ça. Donc, de ce point de vue-là, on a...
C'est un peu magique quand même.
Voilà, on va pas se mentir. Ça fait un peu carte postale. Ok. Sinon, après, voilà, la majorité des habitants... ne vivent pas forcément en bord de mer. Le plus souvent, c'est dans les hauteurs ou dans les vallées. Donc voilà, on ne va pas tous à la plage tous les jours ou tous à la plage après le boulot. Ça, c'est un énorme cliché. Bon, encore une fois, nous, on fait un peu, mais c'est un cas, voilà, on va dire, c'est pas le plus courant. On se tape des bouchons du feu de Dieu parce qu'il y a une seule route qui fait le tour de l'île. Donc les bouchons, c'est un truc pas possible. On va tous faire nos courses à Carrefour, hein, ça, voilà, que ce soit à Tahiti ou ailleurs, on se retrouve tous dans les grands supermarchés. Voilà, après, c'est la carte postale, mais c'est pas la carte postale non plus.
Ouais, non, mais c'est comme les Américains ou n'importe qui, d'ailleurs, moi je parle des Américains parce que c'est là que je suis, mais qui disent « Ah, tu vivais à Paris, ta vie doit être tellement romantique ». Bah non.
Ouais, on se comprend. Ouais, Émilie de Paris, c'est ça, en fait, c'est... ouais, bah, bonjour quoi.
Mais c'est, en fait, c'est aussi toute la différence entre vivre et voyager aussi. Ça veut pas dire que t'en profites pas, mais c'est juste, ça résume pas toute ta vie là-bas. Quoi.
Non, mais c'est ça, c'est pas pareil. Et puis, voyager... Enfin, même la vie en général ici coûte, mais c'est pas que ça te coûte un bras, ça te coûte les deux bras, les deux jambes et trois organes, quoi. Mais, mais vraiment, vraiment.
Comment est-ce que vous arrivez en fait à vous projeter malgré vous avez quand même des difficultés un peu financières aussi au début. Enfin, j'ai l'indemnité de stage. Couvre pas tout. Et à quel moment, en fait, ça vous paraît évident que vous avez envie de continuer là, quoi ?
Franchement, honnêtement, ça s'est fait. Comme ça. Il n'y a pas eu un moment où on s'est dit il faut absolument qu'on reste. On a toujours été ouvert aux opportunités, que ce soit ici ou ailleurs. Donc, comment ça s'est passé ? Moi, j'avais mon billet de retour à la fin des 6 mois, qui était non échangeable, non remboursable, le premier prix que tu peux trouver et qui coûte déjà ta vie entière. Donc, moi, au bout de 6 mois, je suis rentrée. Et Rudy, lui, n'a pas eu de proposition de CDI parce qu'il n'embauchait pas à ce moment-là donc dans l'entreprise dans laquelle il bossait. Mais ils lui ont proposé un CDD de 3 mois. Avec un vrai salaire.
Donc une vie un peu plus abordable a priori, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais moi, de toute façon, j'étais obligée de rentrer. Donc je lui ai dit,
Et pourquoi t'étais obligée de rentrer ? J'ai pas
Parce
compris.
Que sinon, je perdais mon billet d'avion.
Ah,
je pouvais pas décaler la date. Ouais. Donc comme c'était que pour 3 mois, bon, pour un CDI, voilà, j'aurais perdu le billet et puis c'est comme ça. Mais là, que pour 3 mois, et en plus, de toute façon, pour un salaire qui nous permettait pas de vivre à deux non plus, c'était pas possible. Donc je suis rentrée, lui est resté 3 mois. Au bout des 3 mois, ils ont proposé de lui reprolonger de 3 mois. Donc là, ça faisait, ça a fait 6 mois sans se voir. Mais pour le coup, c'était pire que la Thaïlande, puisque là, il n'y a même pas eu des petites vacances entre temps. Ça a été 6 mois où on a été séparés à fond et sans savoir quand on allait vraiment se retrouver, puisque ça, à chaque fois, c'était un peu prolongé. Donc, j'ai dit oui, vas-y, au pire, ça renfloue un peu les caisses pour se réinstaller après ailleurs, où que ce soit, quoi. Oui, ça se refuse pas, je veux dire. Et puis, c'était très intéressant pour son CV aussi. Donc, bon. J'ai dit, OK. Moi, en attendant, forcément, j'étais chez mes parents dans le sud de la France et tu peux pas chercher un emploi, vu que tu sais pas pour combien de temps t'es là. Donc, un peu compliqué. Et au bout de cette deuxième prolongation, il trouve un CDI donc pour un grand hôtel ici, donc une autre boîte. Et donc il me dit, bon voilà, là j'ai été pris, il avait fait les entretiens et tout sans me dire au cas où, quoi. Il m'a dit, voilà, bon, j'ai été pris, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on fait ? Et j'ai dit, écoute, j'arrive, je reviens, oui, non, c'est génial. C'est super, quoi. Donc, tentons l'expérience. Je suis retournée, donc là, par contre, avec l'idée qu'on y vive minimum 1 an, donc avec 2 valises, avec quand même, vu que je connaissais un peu le coût de la vie maintenant, essayer d'acheter des trucs, de prévoir certaines choses. Et puis, au final, avec cette amélioration aussi du confort de vie, alors qui n'est pas fou, hein, il ne faut pas non plus s'imaginer un truc, il n'a pas un salaire de dingue.
Mmh. Mais ça permet de pas perdre de l'argent tous les mois, quand même.
Ça permet de pas perdre de l'argent tous les mois et d'avoir une vie à la locale, hein, très clairement. On n'a pas une vie d'expat, machin. On a une vie vraiment simple, mais qui nous convient, dans laquelle on s'épanouit. Voilà, ça nous suffit vraiment pour ça. Donc parfait, quoi. Et petit à petit, on s'est vraiment fait à ce mode de vie-là, parce qu'à la base, on était vraiment très citadin, très after work, sorti, un peu clubber, qui ici t'oublie totalement, ça n'existe pas. Enfin, t'as des boîtes, bien sûr, mais enfin, ça n'a rien à voir. c'est pas pareil. C'est une vie qui est beaucoup plus en symbiose avec la nature. Beaucoup plus... Ça va faire hyper cliché ce que je vais dire, c'est atroce, mais qui est plus vrai. plus ouais, t'es dans le vrai, dans ce qui compte vraiment dans la vie, quoi. T'es pas tout le temps sur internet ou quoi, t'es avec des vrais gens, tu profites des moments simples de la vie, de la beauté de la nature, voilà, quoi, tout simplement, sans forcément sentir ou quoi, donc ce qui peut faire un peu pantouflard, mais au final qui nous convient hyper bien et qu'on aurait beaucoup de mal à changer aujourd'hui. Et voilà, là c'est vrai qu'on, pour la première fois, on ne ressent plus cette envie et ce besoin, surtout chez moi, de voir d'autres pays.
D'accord. Donc tu te sens arrivé chez toi, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Comment t'expliques ça ?
Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est un ressenti, comme si on, et Rudy ressent la même chose, comme si on était à notre place. Même si c'est chez nous, mais ça sera jamais chez nous non plus. Puisqu'on en sera toujours étranger. Mais ouais, on se sent très bien ici.
Du coup, là, ça fait 6 ans que vous êtes... Enfin, vous commencez votre 6e année à Tahiti. Vous attendez un petit bébé.
Ouais.
C'est top secret, c'est un petit garçon, une petite fille ?
On ne sait pas encore. Donc, il n'y a pas
vous
de...
Vous savez pas ? Ok, d'accord.
Voilà, c'est ça.
Il n'y a pas de top secret.
Okay. Non, pas... Oui, puis je le dirai sans aucun problème. C'est pas... On n'a pas de
secret. Vous n'avez pas décidé d'en faire un secret ?
Non, non, non. Là, on garde pour nous ce que nous a dit la gynéco hier, parce que c'est très tôt. Hein. Là, je suis enceinte que 2-3 mois. Donc, elle a émis une petite idée, mais avec énormément de prudence, parce que c'est qu'un pronostic à ce stade-là. Voilà, donc on verra. En tout cas, on sera très contents dans tous les cas.
Tu me dis si tu veux pas en parler, si c'est trop personnel et tout. Mais j'ai cru comprendre, du coup, sur ton compte Instagram, que le chemin vers la grossesse n'avait pas été simple.
Ouais. Oui, oui. Bah, alors, déjà, pendant longtemps, on ne voulait pas d'enfants, Rudy et moi. Bon, parce qu'on voyait... Plus... Alors, j'ai toujours apprécié le contact avec les enfants, travailler auprès d'eux. J'adore les enfants. Jouer avec eux, passer des moments, tout ça, voilà, avec les enfants, des copains, copines, aucun problème. Mais dans notre esprit, avant, avoir un enfant, c'était égal énorme boulet à la cheville. Et pour moi, et même pour Rudy, étant donné que la liberté, c'était vraiment fondamental de chez fondamental, pour nous, c'était pas compatible avec le principe de liberté.
Avec votre mode de vie,
tu vois, c'était, voilà, on était dans cet état d'esprit-là. Donc on s'était dit non, on n'en veut pas, bon voilà. Arrivé à 30 ans, comme je pense énormément de femmes, malgré tout, on a cette petite alarme biologique qui dit « bon cocotte, est-ce que t'es... Enfin, » juste qui te re-questionne sur le sujet. Bon, est-ce que t'es sûre de toi ? Parce que bon, malgré tout, t'as encore le temps si tu changes d'avis, mais il y a une date de péremption à un moment donné. C'est pas comme les hommes. Donc bon, on était en Thaïlande à ce moment-là. On y a à nouveau réfléchi. Et on s'est dit, bon, vers 35 ans, pourquoi pas, on laissera la porte ouverte. On verra, on en reparlera à ce moment-là. Bon, bon après, je la fais très courte, hein, qu'on arrive ici, etc., etc., etc. Et on a différents projets. Moi, je me suis lancée l'année dernière dans le Heiva. Le Heiva Tahiti, c'est le plus grand concours de danse polynésienne au monde. Donc, c'est un énorme challenge sportif.
D'accord,
ok. Ouais, qui se prépare. Pendant 6 mois, tu n'as pas de vie. Hein. Tu manges Heiva, tu dors Heiva. Voilà, c'est 6 mois tous les soirs. Environ 2 à jusqu'à 4 heures, ça dépend des soirs. Mais en moyenne, c'est 2-3 heures de répétition, plus certains week-ends. Et plus tu arrives vers le mois de juillet, plus tu as tous tes week-ends de répétition toute la journée aussi. Donc, autant te dire que c'est quelque chose qui est difficilement, enfin, qui n'est pas compatible avec un projet bébé. Je devais le faire en 2020, mais notre ami le Covid a tout fichu en l'air. Donc, j'en suis arrivée à le faire l'année dernière, donc à 36 ans. Le concours était au mois de juillet. Et au mois d'août, on a pris la décision avec Rudy de se lancer, ça y est, enfin, dans ce projet bébé. Tu te dis, bon, à notre âge, t'entends pas mal de choses sur la fertilité qui baisse, surtout chez la femme, etc. Tu te dis, bon, je sais pas trop où on va. Écoute, gros coup de bol, je suis tombée enceinte début septembre, donc juste après.
Ah oui, donc rapidement.
Hyper rapidement, le cycle suivant. Premier essai, one shot, bingo, ticket gagnant. Fort malheureusement, ça s'est mal passé, puisque j'ai fait une fausse couche à 11 semaines. Donc 11 semaines, c'est... là tu vois, je suis dans ma 12e semaine, donc c'est 3 mois. Donc proche de la fin du premier trimestre. Et bah oui, ça a été très dur, bien évidemment. Surtout que j'ai fait une fausse couche hémorragique. Donc, direction les urgences, tu te vides de ton sang comme pas possible. T'as l'impression que tu vas y rester. Tu te dis, mais c'est pas... Enfin, j'ai... Et puis, tu souffres, mais... Certaines femmes qui ont vécu les deux le comparent à des douleurs d'accouchement, pour visualiser un petit peu. Sauf que t'as pas de péridurale, t'as rien. Et t'es... Bon. Donc, ouais, pas cool. Puis, bah, finalement, donc, toujours cette capacité à rebondir rapidement. Derrière, bon, en ayant eu le feu vert de la gynéco, on a bien attendu que mon cycle reprenne après la fausse couche, et donc pour réessayer, et je suis retombée enceinte tout de suite.
On dit souvent que le cycle juste après une fausse couche aussi est très fertile.
Ouais, il paraît. Bah, du coup, je me suis pas mal rencardée sur le sujet, hein, puisque j'ai découvert cet univers-là. C'est un sujet qui est quand même encore trop tabou, je trouve, de moins en moins, hein, mais trop tabou. Donc, on se sent toujours un peu seul, isolé face à cette épreuve, mais au final, ça arrive quand même beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et oui, a priori, en tout cas, les 3 premiers cycles qui suivent une fausse couche, on aurait tendance à être plus fertile sur cette période-là. Donc, bon. En tout cas, nous, t'as énorme coup de chance. Je t'avouerai que quand j'ai fait le test, je l'ai fait comme ça, histoire de voir, mais j'avais posé le test sur un coin de table, j'avais pris mon bouquin, je le fais, mais ça, je m'en fiche. Positif, ok. Attendez, j'étais pas prête. Mais...
ouais.
Et puis bon, bah, là, je touche du bois, mais pour l'instant, tout se passe hyper bien, donc pourvu que ça dure. J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, on en reparlera l'année prochaine ou dans quelques années, mais j'ai l'impression que ici, mais comme pour beaucoup de choses en fait, comme c'est, tu te prends moins la tête, par exemple.
C'est pas mal.
Ouais, t'as moins de regard de la société, t'es un peu, tu ressens pas ce regard accusateur ou de jugement. C'est pas pareil. Donc ici, tu vois très souvent des il fait très chaud. D'ailleurs là, je suis en train de perdre des litres de flotte en parlant. Il fait chaud comme pas possible. Il y a pas un poil de vent, c'est terrible. Mon Dieu, on est en été là, on étouffe en ce moment.
Ouais.
Et eh bien, tu vois beaucoup de bébés qui sont tout simplement en couche.
Ouais,
on va pas forcément.
Oui.
Ouais, on s'en fout, quoi. On va pas forcément les habiller ou quoi, il n'y a pas besoin. Donc, le bébé est en couche toute la journée, même pour aller se balader en ville. Toi, t'as ton pareo, tes tongs, tranquillou. Il n'y a pas de pression sociale non plus sur le corps des femmes, ce qui est une chose, en tant que parisienne, que je trouve extrêmement appréciable et que j'apprécierais aussi énormément en postpartum, je pense. Ici, tu peux être vraiment, mais très obèse et être en string seins nus à la plage sans que personne t'embête ou te sorte un vieux regard. Tout le monde s'en fout, au contraire, tout le monde est bienveillant. Et, c'est très, très positif par rapport à...
Une relation au corps qui est beaucoup plus positive.
Plus saine. Ouais, c'est vachement plus sain. Donc je trouve que qu'éduquer un enfant dans cet état d'esprit-là, où on ne va pas le juger sur son physique, sur ses vêtements, sur tout ce qui est autour de l'apparence, je trouve ça hyper sain et juste génial. Il sera aussi... en contact tout le temps avec la nature. Ça, c'est génial. Quoi. Toujours voilà, se baigner dans la rivière ou dans le lagon, avec les poissons, tout ça. Enfin, là, je vais commencer la préparation à la naissance dans le lagon.
Ouais.
Enfin, c'est juste... Oh, c'est...
Génial. T'envisages quoi, un accouchement dans l'eau ou...
Alors, là, on est en pleine réflexion. Alors, c'est possible dans un endroit. Donc, on a une maison de naissance qui a ouvert l'année dernière, dans laquelle tu peux accoucher dans l'eau.
Mais c'est dans des chambres, dans des baignoires, quoi. Dans des...
C'est une piscine. Enfin, une piscine
ouais,
exprès.
Hein, ouais.
Le truc, c'est que voilà, pour accoucher en maison de naissance, c'est donc un accouchement physiologique sans péridurale. Donc ça, j'étais vraiment... Bah, je m'étais inscrite pour ma première grossesse à la maison de retraite. À la maison de retraite. C'est moi qui vais aller me coucher. À la maison de naissance. Non, mais n'importe quoi. Du coup, j'étais inscrite, j'avais commencé le suivi là-bas, mais j'étais vraiment dans cet état d'esprit où ça va forcément bien se passer. Et puis je fais beaucoup de méditation presque tous les jours. Je suis quelqu'un de très zen, très voilà, très yoga méditation, voilà. Et ben, le fait d'avoir vécu la fausse couche. En plus, c'est hémorragique, ça fait prendre conscience que tout peut... Bon, déjà que ça ne se passera jamais comme tu le prévois, ça, c'est clair.
Ouais.
Mais que ça peut aussi mal se passer. Donc là, la maison de naissance est collée à l'hôpital.
D'accord.
Bon, en cas d'urgence, il transfère quand même assez rapidement. Mais là, je me dis, oui, mais il y a juste le monitoring, il n'y a rien d'autre. Je veux dire, comment est-ce que les sages-femmes peuvent se rendre compte s'il y a un problème, à quel moment, est-ce que tu commences à psychoter un peu, et donc là on est en pleine hésitation entre la maison de naissance et donc accoucher dans l'eau si c'est possible et l'hôpital. Deux salles, deux ambiances.
Ouais, c'est ça.
Quand tu habites dans les... Donc, on dit Tahiti et les îles, même si il n'y a que des îles, mais on va parler de Tahiti et des îles. Donc, quand tu vis sur les îles et que tu dois accoucher, c'est à Tahiti. Il faut prévoir le déplacement, tout ça. Donc, tu vois, au niveau des places, tout le monde accouche quand même plus ou moins là. Donc, tu as l'hôpital, tu as la maison de naissance qui vient d'ouvrir, mais qui a des places vraiment très limitées. Donc, si tu veux être sûr d'avoir ta place, t'as quand même intérêt à te lever tôt. Et tu as deux cliniques. Tout est autour de Papeete, donc autour de la capitale. Voilà. Donc, malgré tout, faut quand même y penser assez tôt et arrêter ton choix assez rapidement. Si tu veux être sûr d'accoucher là où tu l'espères,
bien sûr.
En tout cas.
Tu nous feras un petit vocal après la diffusion de l'épisode pour nous donner des nouvelles.
Avec grand plaisir.
Mais en tout cas, on te souhaite, ainsi qu'à Rudy et à Bébé qui arrive, plein de bonheur.
Merci.
Je vous souhaite un début de vie à trois aussi simple et doux que possible.
Merci.
Garde ta zénitude et ta bonne humeur, en tout cas. Ça fait du bien.
Toujours.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, une question que je ne t'ai pas posée ou tu voulais parler de quelque chose en particulier ?
Et peut-être juste de bien garder à l'esprit pour tout le monde, pour toute personne qui envisage une expatriation à Tahiti, que très clairement, non vraiment, c'est pas... Oui, je sais que là j'ai parlé de choses super sympas et qui font rêver, mais c'est pas que ça. Il y a beaucoup d'inconvénients. C'est vrai que là on n'a pas trop parlé. C'est pas si simple. Il y a... énormément de chômage, trouver un emploi c'est très très difficile, c'est aussi réservé aux locaux, ce qui est tout à fait normal, mais voilà.
C'est quoi le plus gros cliché qui est sur Tahiti auquel t'aimerais tordre le cou ?
Que tout est facile, voilà, que tout est facile et que les Polynésiens sont tous super sympas et super accueillants, c'est pas tout beau tout rose, Il y a aussi de la xénophobie, comme dans plein d'endroits du monde, surtout sur les îles. Donc c'est surtout depuis 2021. Et oui, depuis 2021, il y a eu quand même... Ouais, on a vu quand même une vague d'expatriation. Ça paraît déjà une vague. Je parle d'un tsunami. Mais bon, il y a quand même une augmentation de personnes qui sont venues tenter la vie à Tahiti. Et ça crée de grosses tensions sociales.
Des tensions.
Voilà, parce que il y a très peu de logements. Les prix explosent. Enfin, sont déjà très chers, mais ils explosent depuis cette vague d'arrivée. Les emplois, déjà qu'il n'y en a pas, mais il y en a encore moins. Donc tout ça, voilà, ça crée une tension sociale qui s'entend, qui se comprend très très bien, mais voilà, qui n'est pas toujours hyper, hyper agréable. Donc faut bien prendre ça en considération quand on veut venir s'installer ici aujourd'hui. C'est loin d'être simple. Et il faut être prêt à s'adapter, à changer de vie totalement, pas venir avec, comme malheureusement trop le font, avec cette idée, c'est cette mentalité un peu de colon qui arrive en terrain conquis, c'est la France et je veux imposer ma façon de vivre, ma façon de faire et juger la façon de faire des locaux, quoi. Ça, c'est... Mais bon, c'est comme le Parisien qui va vivre en Bretagne, quoi, si tu veux. Ce sera le même accueil par les Bretons que le gros cliché. Voilà, c'est... Faut garder un peu cet état d'esprit-là.
Ouais.
Et pareil, on n'a pas d'allocation, on n'a pas... Voilà, ici, tu bosses pas, t'as pas d'allocation chômage, t'as rien. C'est... Voilà.
Ouais, c'est ça, les gens, je pense, ont peut-être tendance à penser que c'est la France, mais
non,
mais
pas
non
du
comme
tout.
Tu le dis, t'as ton propre gouvernement, donc t'as pas tout ça, quoi.
Non, absolument pas. On a une sécurité sociale, mais non, on n'a pas tout ce qui est allocation, tout ça, enfin, ça n'existe pas, il n'y a pas. Et que, quand, pendant la crise du coronavirus, énormément de gens ont perdu leur emploi, c'est derrière, tu ne payes plus ton loyer, tu ne payes plus tes repas, tu ne payes plus rien. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. C'est... Note.
T'as raison de rappeler tout ça. Et est-ce que, pour terminer, il y a un petit conseil que tu chuchoterais à la Emeline d'il y a 10-15 ans ?
Oh, il y a 10-15 ans. Tu as raison d'avoir confiance en la vie. Garde la confiance, garde ton cœur bienveillant en toutes circonstances. Parce que même dans les coups durs, ça vaut le coup de rester bienveillant et ça paye toujours au final. Donc, à celle que j'étais il y a 10-15 ans, oui, de rester avec ce... Certains diront le côté bisounours et j'aime pas ça, mais voilà, j'aime être quelqu'un de positif et bienveillant, peu importe les situations. Parce que, encore une fois, la vie est trop courte. Donc, pourquoi juger les autres ? Pourquoi s'embêter ? Pourquoi s'énerver ? Pourquoi être en colère ? Pourquoi garder de la rancœur ? Non, voilà, donc t'as raison, continue comme ça. Tout se passera bien, tout se passera bien.
Mai tova ka tuku nai mave mai te kua e pa pa vai.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Emeline pour sa disponibilité et pour cet échange passionnant. J'adresse aussi à Emeline et son conjoint toutes mes félicitations, puisqu'au moment où vous écoutez cet épisode, la famille d'Emeline s'est agrandie. Je vous adresse tous nos vœux de bonheur. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous le savez absolument par cœur, mais je le redis quand même parce que ça compte énormément. Dites-le, parlez de cet épisode, envoyez-le dans votre groupe WhatsApp, à la machine à café, sur le Slack de votre entreprise. Bref, parlez-en autour de vous, faites un maximum de bruit. Et si vous avez encore 30 secondes à nous accorder, direction votre appli de podcast préférée, laissez-nous un petit mot et donnez-nous 5 étoiles, ça compte beaucoup aussi. Bon, et alors la semaine prochaine, on parle de quoi ? Eh bien, écoutons un petit extrait.
Je voulais pas être prof, mais depuis toute petite, moi, ce que je voulais être, c'était bilingue. Donc
d'accord.
Ça, faut le savoir.
Okay.
C'est que depuis petite, mes parents, ils m'en parlent encore. C'est je veux être bilingue et je veux vivre à l'étranger.
D'accord. Ou peu importe. Et bilingue dans quelle langue
Quand j'étais petite, le peu importe. Et quand en sixième, j'ai commencé l'anglais, c'était je veux être bilingue en anglais et vivre dans un pays anglophone. Et quand j'ai découvert la culture américaine dans une classe d'anglais, justement en troisième, et à ce moment-là, ma cousine vivait à New York, forcément...
Ça m'a mis des étoiles dans les yeux.
Voilà. Mais par contre, j'étais pas très très bonne en anglais. Enfin, moi, au bac, j'ai eu 10 sur 20 en anglais. T'es meilleure en espagnol. Mais
l'anglais, c'était ta langue.
Mais c'était l'anglais. Je voulais absolument être bilingue en anglais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris aux États-Unis. Il y a deux choses vraiment que j'ai appris, c'est le partage des émotions. Parce qu'en France, moi, je sais, pendant la formation, j'ai des enseignants de l'université qui nous disaient, quand vous passez le portail de l'école, vous mettez un masque et vous oubliez tous vos problèmes de la maison.
Alors pas toujours très sain.
c'est pas sain et c'est pas facile à faire. Enfin, bon, moi, j'avais appris ça, donc je faisais ça. Et en fait, moi, je suis arrivée aux États-Unis, c'était mais t'as des émotions. Les élèves, on leur apprend à gérer leurs émotions pour que ça fasse des adultes qui soient capables de gérer leurs émotions. Donc, il faut que tu partages tes émotions. Et je travaille encore dessus. Hein. C'est pas tous les jours facile.
C'est pas inné, quoi.
Non. Mais je trouve ça tellement plus sain. Ma maîtresse, elle est capable de me dire qu'aujourd'hui, elle est fatiguée et que donc ça va être compliqué pour elle. Ça veut dire que demain, si c'est le cas pour moi, bah, je peux lui dire. Plutôt que le garder à l'intérieur et exploser à un moment donné, finalement. Donc j'ai appris ça. Et j'ai appris aussi qu'on pouvait partager de nous-mêmes sans que ça soit intrusif ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y a rien d'intrusif à partager notre animal préféré ou notre couleur préférée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup appris cette année-là. Et aussi, comme c'était des grands, c'était des CM2, j'ai appris à leur donner beaucoup d'autonomie et d'indépendance.
Pour les préparer pour le collège, middle school.
Pour les préparer pour le collège et puis aussi pour la vie future, en fait. D'abord, on m'a expliqué, mais tu sais, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour les tenir par la main et leur dire, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Et si on veut qu'ils deviennent des adultes qui soient capables d'aller chercher les ressources dont ils ont besoin. Ce n'est pas les laisser comme ça, débrouille-toi. C'est voilà. Au début, je t'apprends que si tu connais pas un mot, par exemple, en français, quelles sont tes options avant d'aller voir ton enseignante. Vraiment, c'est si vraiment tu ne trouves pas. Ah, mais je peux aller voir un copain, par exemple, peut-être qu'il connaît ce mot. Ok. Tu peux demander donc l'aide de quelqu'un, de tes pairs. Oh, super. Et s'il ne connaît pas. Ah, ben peut-être que je peux aller chercher. Souvent, on a des petits... t'as un carnet tout le vocabulaire des fruits et légumes, voilà. Si tu penses que tu peux trouver dans un de ces petits carnets, ok. Et sinon, bah, je peux aller chercher dans le dictionnaire. Ok. Et sinon, bah, il y a un programme en ligne où on peut mettre, c'est comme un dictionnaire en ligne, etc. Ok. Est-ce qu'on peut arriver à trouver ? Bah oui. Et forcément, dès qu'on leur donne ces bases, en fait, au début de l'année, et qu'on travaille avec eux sur ça... À la fin, ils sont indépendants. Enfin, moi, là, à la fin de l'année, mes élèves, qui sont pourtant cette année, j'avais les CE1, CE2, si je m'absente, ils ont il y a toujours un adulte, forcément, mais si voilà, je suis malade et qu'il y a un adulte qui ne connaît pas nos routines, ils savent exactement quoi faire. Ils savent, ils ont tous un travail dans ma classe.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.